Chapitre 5. Il y a, dans le passage subi de certains doutes à certaines évidences, quelque chose de déchirant tout ensemble et d'irréparable. L'âme en éprouve le même frisson que la chair au contact de l'acier qui la mutile. Tous les jaloux ont connu cette impression affreuse quand ils ont, après des jours, des années quelquefois, de torturantes hésitations, tenu la preuve indiscutable de la perfidie devinée. Mais Aliette de Lautrec n'était pas seulement une femme devenue tout d'un coup jalouse jusqu'à la douleur par la plus fortuite des révélations, c'était aussi une femme d'une pureté absolue. Surveillée par la plus sincère piété, son imagination, aussi chaste que romanesque, ne s'était laissée effleurer par aucune complaisance malsaine. Ses amis du monde, qui la savaient un peu sévère, n'engageaient jamais devant elle de ces conversations trop vraies qui ne rendent pas une honnête femme moins honnête, mais qui, tout de même, lui déflorent un peu l'esprit en l'initiant par la pensée aux égarements des sens. Pour Aliette, mariée comme elle avait été mariée, par raison, l'univers de l'amour passionné demeurait un mystère à peine pressenti. C'était bien pour cela que la constante réserve de Bertrand Dédé dans ses rapports avec elle avait peu à peu apprivoisé sa modestie en la respectant. Une cour derrière laquelle cette sensibilité, si profondément, si intimement pudique, eût non pas même aperçu mais suspecté la plus vague apparence de désir, aurait provoqué en elle un immédiat sursaut de révolte. Elle s'était fait du jeune homme cette image naïvement idéalisée qui permet seule la naissance de l'amour chez des femmes comme elle, dont la délicatesse maladive répugne à la connaissance exacte des caractères. Ces rêveuses ne se plaisent qu'à une vision flottante, indécise, partiale et partielle des choses et des gens. Ont-elles tort? Quand vous respirez une rose dans un bouquet, n'êtes-vous pas heureux qu'elle soit séparée de ses racines, de la terre humide et noire, de l'humus malpropre où elle a grandi? Ces belles et craintives sensibilités résonnent de même avec la vie. Elles sont tendres et chimériques, et quand un brutal incident ne leur permet plus le mensonge de leur illusion, quand il leur faut voir ces choses et ces gens dans une réalité le plus souvent grossière, une douleur les étreint à ne pas la supporter. Il y a de tout dans cette douleur. L'impression humiliante de la duperie, l'écroulement d'un joli château de songe ou s'abriter. Il y a surtout comme la contagion d'une flétrissure. Certains secrets, une fois découverts, salissent la mémoire où ils sont déposés. Ceux que nous connaissons de honteux fait, en un certain sens, partie de nous-mêmes. Aliette ne devait jamais cesser d'être la vertu et l'honnêteté faites femme. Elle ne devait jamais oublier non plus ce corridor de château à demi éclairé, cette nuit silencieuse, et, dans ce mystère, le jeune homme marchant à ce rendez-vous deux fois criminel, puisqu'il trahissait la confiance d'un homme dont il serrait la main, le mari d'Emeline, puisqu'il trahissait sa confiance à elle, Aliette, à qui son attitude de tant de jours avait fait croire qu'il l'aimait. La nuit qui suivit cette découverte fut affreuse pour la pauvre femme. Quand elle eut vu Bertrand disparaître derrière la porte de la chambre de Madame de Sarliève, un tremblement saisit tout son corps. Elle dut s'asseoir sans avoir la force de refermer sa propre porte. Ces mots, ces simples mots mais si douloureux, « il est son amant », se prononçaient en elle avec cette atroce précision que prend la voix intérieure dans des minutes pareilles. Son amant, répétait la petite voix, et ces syllabes brûlaient ce cœur d'amoureuse ingénue qui en réalisait toute l'actuelle, toute la hideuse vérité, et voici que son émotion, s'épanchant enfin en larmes, elle put aller jusqu'à son lit où elle se jeta en sanglotant. « Comme ils m'ont menti ! Comme ils m'ont menti !» Cette crise de désespoir une fois domptée, la petite voix reprit tout bas. « Que faire ?» Oui, qu'allait-elle faire? Cette nuit, cette affreuse nuit, passerait pourtant. Les heures s'en iraient, ces heures dont elle entendait le battement dans la pendule, heures qui lui mesuraient à elle tant de tristesse et à eux, à l'ami perfide et à son amant, tant de félicité. Le matin arriverait et il faudrait qu'elle revît Emeline après ce qu'elle savait. il faudrait qu'elle s'entendît tutoyer par elle, la voir là, qui l'embrasserait. La seule imagination de ce baiser fut intolérable physiquement à l'honnête femme, au point qu'elle s'écria, et à voix haute, « Cela, non ! Jamais ! Jamais !» Et lui, Bertrand, elle devrait le revoir aussi le lendemain et subir l'abominable perfidie de ce regard qui lui avait été si doux. Il l'envelopperait de cette muette contemplation à laquelle, secrètement, presque sans le savoir, elle s'était tant complue. Il lui parlerait de cette voix qui se faisait si respectueuse. Elle s'y était tellement laissée toucher. Elle le comprenait maintenant à la douleur que lui causait la nécessité de mépriser le jeune homme. Tout s'éclairait à son regard de la place qu'elle tenait entre les amants depuis 2 années, et comme elle avait trop de fierté vraie pour être vaniteuse, ce n'était pas une blessure d'amour-propre qui saignait en elle. Une semblable hypocrisie, la bassesse du calcul conçu par ce dédit qu'elle estimait tant, par cette Emmeline en qui elle croyait comme en elle-même, le jeu qu'ils avaient fait de son honneur et de son cœur pour garantir la sécurité de leur intrigue, toute cette vilenie soudain dévoilée, voilà ce qui soulevait cette âme pure d'une trop pénible nausée et, à travers ses dégoûts, ses révoltes, cette jalousie aussi, elle sentait, avec la plus intime amertume, une vérité pire, mais qu'elle s'avouait à présent, avec le courage de cette conscience retrouvée dans cette secousse de douleur, cet homme si méprisable tenait en elle aux fibres les plus secrètes de son être. Elle souffrait de sa trahison plus encore qu'elle ne s'en indignait. Elle l'aimait. Elle l'aimait. Quand elle eut la force de se formuler enfin cette réalité de son sentiment avec cette précision d'aveu à laquelle jusqu'alors elle s'était toujours dérobée, un silence de terreur se fit en elle. Cette fine et délicate créature demeura épouvantée devant le flot de passion qui la noyait, comme un baigneur surpris par un coup de marée qui ne retrouve plus le sable où ses pieds s'appuyaient. Roulé par une force aveugle, immense, irrésistible, il reste d'abord paralysé. Aliette avait toujours été trop sincèrement pieuse pour ne pas garder intact en elle le grand principe chrétien. Elle croyait à l'identité entre le péché de pensée et le péché d'action. Elle n'était pas de celles qui s'estiment vertueuses lorsqu'elles ne donnent pas leur personne en donnant leur cœur. De découvrir qu'elle avait donné le sien et si complètement, commença de lui être, par cette cruelle nuit, un remords dans sa douleur. Ses émotions si diverses se heurtaient en elle, confusément, amèrement, jusqu'à ce qu'un peu de sommeil lui permît d'oublier la perverse Emmeline, d'oublier le traître d'Eddie et de s'oublier elle-même pour quelques instants. À son réveil, il faisait grand jour. Quand sa femme de chambre eut ouvert les fenêtres, elle vit les profondeurs vertes du parc, les gazons parsemés de fleurs en massif, ce calme et frais horizon d'idylle anglaise et la pensée que les amants allaient se promener l'un avec l'autre, si heureux, si tranquille dans cette solitude, lui rendit en une seconde tout son trouble de la nuit. Pour la première fois, un mauvais désir tenta cette nature si noble, si haute. Elle se rappela l'impression presque sinistre que lui avait faite le mari d'Emmeline dans le jardin de Durlock House, et elle souhaita que l'absence de ce redoutable personnage, en ce moment, ne fût qu'une feinte pour revenir et surprendre les coupables. Fallait-il que son être intime fût bouleversé pour que l'idée d'une pareille catastrophe la fît tressaillir de cet appétit de vengeance si odieux à une âme généreuse comme était la sienne? Puis toute cette âme se rejeta en arrière. Elle ne voulut pas avoir éprouvé ce mauvais sursaut de passion et, comprenant qu'avec de pareils mouvements de son cœur, elle ne conserverait pas, en présence d'Emmeline et de Bertrand, l'attitude qui seule convenait à sa dignité, elle prit la résolution de rester tout le jour enfermée, les rideaux baissés, sous prétexte de migraine, à ne recevoir personne et à prier, à demander à Dieu la force de porter cette croix et de faire du moins son devoir. C'était le dimanche. Il avait été convenu la veille avec Lady Semley qu'une voiture les mènerait, Emmeline et elle, à une église catholique située à quelques milles dans la campagne. Mais d'aller à l'église ainsi, Aliette n'en avait pas la force. d'entendre une messe lui eût été d'un tel secours. L'entendre avec cette femme à ses côtés, non, elle ne le pouvait pas, et troublée encore, tant sa religion était stricte, par le scrupule de manquer au devoir du dimanche, elle se plongea, elle s'abîma dans la prière, ayant autour d'elle assez de ténèbres pour y perdre la sensation du jour, assez de silence pour y oublier la vie, assez de solitude pour qu'aucune présence humaine n'interrompît le dialogue que son âme en peine allait entretenir avec elle-même, avec le consolateur aussi, l'ami d'en haut, qu'elle appelait, qu'elle implorait, pour panser la plaie, couvrait en elle les affections d'en bas. La vie d'une belle âme dans le monde a de ces secrets sublimes qui compensent la misère des autres. Qui donc aurait cru que, dans ce château rempli de toutes les allées et venues d'une partie élégante et oisive, les volets clos d'une des chambres au premier étage protégeaient une méditation aussi exaltée, aussi fervente que celle d'une carmélite agenouillée sur le carreau de sa cellule? Et cependant, c'était ainsi. Quand Lautrec, qu'elle avait chargé de l'excuser, descendit à la table du déjeuner, servi d'après l'habitude anglaise, avec une profusion de plats chauds et froids préparés sur le dressoir, et pris par chacun à son heure et à sa convenance, il n'y avait dans la salle à manger que Madame de Sarliève et Dédie. La voluptueuse gaieté des deux complices, qui riaient dans leurs yeux, sur leur front, autour de leurs lèvres, dans tous leurs gestes, si l'on peut dire, se changea en une gêne singulière lorsque le nouveau venu leur eut dit « Cette pauvre Aliette n'est pas bien. Elle a une de ces mauvaises migraines. Je crois qu'elle ne se lèvera pas de la journée. » « Et moi, qui ne suis pas allée l'embrasser ce matin pour la laisser dormir, » fit Emmeline, « je vais monter et lui tenir compagnie. » « Je vous remercie pour elle, » dit Lautrec, « mais elle m'a prié instamment de condamner sa porte pour tout le monde. Elle veut essayer de se reposer. » « Est-ce que cela ne vous inquiète pas, cette indisposition subite ?» demandait Bertrand à Emmeline une demi-heure plus tard, lorsque le déjeuner fini, ils se trouvèrent de nouveau en tête-à-tête dans l'allée du parc qui tournait justement sous les fenêtres fermées d'Aliette, cette même allée parmi les bosquets de rhododendrons fleuris qu'elle avait regardée à son réveil avec une telle souffrance à l'idée que les amants s'y promèneraient comme ils s'y promenaient. Sa jalousie les avait vus heureux, ravis, tout entiers l'un à l'autre, sans se douter que son seul souvenir évoqué entre eux la vengeait déjà. « Pourquoi voulez-vous que cela m'inquiète ?» répondit Madame de Sarliève. « Aliette est délicate et ses 15 jours à Londres l'ont fatiguée, voilà tout. Que voulez-vous qu'il y ait d'autre ?»« Je ne sais pas, » fit Bertrand, « mais il me semble qu'en vous parlant, Lautrec était embarrassé, comme si sa femme eût insisté pour que, vous spécialement, on ne vous laissât pas entrer. « Moi ?» fit Emmeline. « Et pour quelle raison ?»« Mais, » dit le jeune homme avec une hésitation et un peu de rougeur à ses joues, « si elle savait tout, si elle avait, par hasard, surpris notre rendez-vous de cette nuit. » Il détournait ses yeux en prononçant ces mots, comme effrayé par le regard que les yeux aigus de sa compagne fixaient sur lui. « Eh bien, » répliqua celle-ci après un silence, « supposons qu'elle sache que je suis votre maîtresse. C'est moi que cela regarde, il me semble. C'est moi qui peux avoir à en souffrir et non pas vous. À moins, » continua-t-elle d'une voix singulièrement profonde, « qu'il n'y ait entre vous des choses que je ne soupçonne pas. » Entre elle et moi, interrompit Dédie non moins vivement, « mais vous savez bien que Madame de Lautrec est au-dessus du soupçon. » « Vous savez bien comme elle est fière, comme elle est pure, comme je la respecte. Mais qu'avez-vous ?»« J'ai, » répondit Emmeline, dont les joues s'étaient empourprées à son tour, « que j'admire la délicatesse avec laquelle vous me faites sentir la distance que vous mettez entre elle et moi. » « Oui, » insista-t-elle avec ce frémissement de colère haineuse que les femmes galantes ont si vite en parlant des autres, « pourquoi est-elle fière? Pourquoi est-elle pure ? Pourquoi la respectez-vous? Parce qu'elle est incapable d'avoir le courage de ses sentiments et de tout sacrifier comme moi à quelqu'un qu'elle aime? Ah, j'y vois clair à présent. Il y a une coquette dans cette sainte et elle est en train de me prendre votre cœur. Si ce n'est pas vrai, pourquoi tremblez-vous à la seule pensée qu'elle sache tout? Ami, Comme tu viens d'être injuste pour ton pauvre ami, dit-il d'une voix douce où le tutoiement mettait une caresse de plus, et il ne jouait pas une comédie. Il la sentait souffrir et il la plaignait. Et puis, il ne voulait pas convenir vis-à-vis de lui-même qu'elle eût si raison, et il continua. Mais dans tout ceci, je ne vois que toi, je ne pense qu'à toi. Je me dis que si Madame de Lautrec a surpris notre secret, elle n'acceptera plus de protéger notre amour comme elle faisait à son insu. Ton mari a failli être jaloux, tu l'as avoué toi-même. Tu lui as trouvé un air étrange quand il t'a demandé où tu avais passé la matinée avant-hier. J'ai toujours eu l'idée que Lautrec lui avait appris notre promenade en tête-à-tête au parc. Si tu ne la lui avais pas dit pourtant, il avait une piste. Comprends-moi, si nous ne nous voyons plus chez Aliette, quand et où nous verrons-nous? Voilà ce qui me tourmente. Et puis, il faudrait expliquer ce changement de relation, soit pour toi, soit pour moi, soit pour nous deux. Tu te rends bien compte, à présent, que j'ai 20 fois raison de désirer qu'elle ne soupçonne rien ?»« Que tu es bon de m'avoir parlé ainsi, répondit-elle, apaisée pour quelques instants, et que cela me fait du bien. Qu'il arrive ce qui doit arriver, mais que tu m'aimes. » Et puis, conclut-elle rieuse, il n'arrivera rien. Cet après-midi, la consigne sera levée, je verrai Aliette et je saurai ce qu'elle sait, je te le promets, ou je ne m'appelle plus Emmeline. » Cette confiance dans l'aveuglement persistant de son amie, Emmeline devait la perdre en présence des symptômes qui se succédèrent, cet après-midi et le lundi matin, trop multipliés et trop significatifs pour ne pas inquiéter même la moins inquiétable des femmes, la plus disposée à cet optimisme de l'espérance, formulé si gaiement par cet habituel « il n'arrivera rien ». Ce fut d'abord un refus répété 3 fois par Madame de Lautrec de la recevoir cet après-midi et le soir. Comment se fâcher devant ces mots? Elle repose, elle a demandé qu'on la laissât seule. Mais comment ne pas y reconnaître une résolution qu'un événement nouveau expliquait seul? Quel événement, sinon celui que Bertrand avait aussitôt pressenti? Aliette avait surpris le rendez-vous nocturne. Emmeline était trop adroite, elle avait une trop juste intelligence de sa propre situation, une entente trop fine des caractères pour ne pas apercevoir les périlleuses conséquences d'une pareille découverte. Elle savait Madame de Lautrec incapable de trahir ce redoutable secret, mais incapable aussi de prêter sa complicité à une telle aventure. En outre, elle la soupçonnait, depuis longtemps déjà, on l'a vu, de n'être pas restée insensible à l'adoration respectueuse, traîtreusement affichée par Dédi. Dans des conditions pareilles, cette découverte, c'était la rupture certaine entre les deux femmes. Et comment expliquer cette volte-face de leur rapport à Sarliève? Elle aussi se rendait compte que cet homme, naturellement simple et peu disposé à chercher des motifs secrets aux actions de ceux qui l'entouraient, n'était plus ce mari tranquille et ouvert qu'elle avait si facilement abusé. Elle avait évidemment trop spéculé sur ce manque de perspicacité, trop commis de ces petites imprudences dont chacune n'est rien, mais la somme fait un tas. Qu'inventerait-elle pour justifier une brouille avec sa meilleure amie? Et puis, même cette défiance endormie, comment organiserait-elle sa liaison avec Bertrand? Ce que les femmes vraiment amoureuses rêvent dans une intrigue de ce genre, ce qu'elle avait réalisé grâce à la combinaison de l'ami écran, c'est la fréquentation quotidienne, la continuelle présence, rencontrer leur cavalier servant, comme disait si délicatement l'ancienne galanterie italienne, en visite, à dîner, au théâtre, unique moyen pour elle de sauver par un peu d'attrait mystérieux l'insipidité des corvées mondaines. Emmeline devrait renoncer à cette jolie intimité qui lui était d'autant plus chère qu'elle y trouvait aussi un moyen de surveillance sur son amant. Elle était trop éprise de lui pour n'en être pas jalouse. Cette jalousie achevait de lui rendre plus pénible ses réflexions sur les dangers probables de la découverte faite par Aliette. Durant ce mortel dimanche, elle vit Bertrand de plus en plus préoccupé et, quoique les raisons qu'il lui avait données de son souci s'expliquassent trop bien, puisqu'elle en subissait elle-même la hantise, elle y discernait autre chose. Son obsession de ces derniers jours la reprenait. Elle avait peur, comme elle avait dit dans le parc de Kensington, qu'il ne se fût vraiment laissé séduire au charme d'une femme délicieuse, rivale d'autant plus redoutable qu'elle était plus différente. Que devint-elle lorsque, le soir de ce dimanche, s'étant rapprochée du jeune homme pour lui dire « Je crois qu'il est plus prudent que nous ne nous revoyions pas avant demain matin ?»« Vous avez raison, lui répondit-il. » Et au soulagement de son regard, elle devina que s'il avait osé, il lui eût fait le premier cette proposition de renoncer au rendez-vous de la nuit qu'ils avaient convenu en se quittant. Non, ce n'était pas sage de s'exposer à une nouvelle surprise d'Aliette. Mais Emmeline aurait voulu que cette renonciation fût un sacrifice pour Dédi comme c'en était un pour elle. Et dans sa facilité à lui répondre oui, dans l'expression presque délivrée de sa voix et de sa physionomie, elle discernait, non pas un signe d'une sollicitude pour elle, mais la preuve du souci où le jetait la pensée de l'autre. Cet état de malaise fut porté à son comble quand elle le vit, le lendemain matin qui était le lundi, réellement bouleversé par cette phrase de Lautrec, « Aliette est toujours si fatiguée. Elle ne pourra partir que par le train de l'après-midi. » « Je commence à croire que vous avez deviné juste, » lui dit-elle lorsqu'ils furent assis à côté l'un de l'autre dans le wagon du retour. « Évidemment, elle n'a pas voulu prendre le même train que nous. »« Qu'allons-nous faire ?» demanda le jeune homme avec une anxiété dans ses prunelles qui s'accrut à la réponse de sa maîtresse. « Moi, » dit-elle, « je suis pour les situations nettes. Je vais jouer carte sur table. » Si elle sait que vous êtes mon amant, elle vous acceptera comme tel ou je ne la verrai plus. « Et votre mari » interrogea-t-il. « C'est mon affaire » répliqua-t-elle de nouveau en le pénétrant d'un regard qui lui descendit jusqu'au fond de l'âme. « Ne me manquez pas seulement, vous, c'est tout ce que je demande. » Encore une fois, ses yeux à lui se détournèrent. Il se dérobait à cette tendre inquisition. Ah, si Emmeline avait été très coupable en abritant sa liaison derrière l'innocente et noble Aliette, elle commençait d'être bien punie. Elle ne prononça plus une parole durant ce trajet qui lui parut interminable, quoique si court. Les prairies, les bois, les villes, les cheminées d'usines, les manoirs de campagne passaient devant elle, qui ne les voyait plus. Elle n'entendait plus les propos échangés entre les deux dames Hardrahan et les Roland Barnett, les quatre personnes de la partie qui rentraient dans le même compartiment qu'elle. À plusieurs reprises, Bertrand, un peu effrayé de son silence, tenta de renouer la conversation. Elle ne s'y prêta point. Son esprit, si léger, si fantaisiste en apparence, était en réalité très pratique. C'est presque toujours le cas pour les femmes qui ont des aventures. Ces romanesques sont au fond des positives. Conduire une intrigue parmi les espionnages si perspicaces du monde, à travers l'ensemble de surveillance quotidienne que représente une maison montée, de nombreux domestiques, une voiture, à côté d'un mari qui n'est pas un sot, quel tour de force, et qui suppose, chez ces soi-disant étourdis, une telle froideur de calcul au service de leur plaisir, une si constante maîtrise de soi, enfin des qualités d'action bien plus que des dons d'émotion. Emmeline haïssait les incertitudes, les à peu près, les sous-entendus. Elle était décidée et nette. En ce moment, elle apercevait distinctement deux dangers. Le premier, que les conditions de sa vie conjugale et amoureuse fussent bouleversées par la soudaine lucidité d'Aliette. Le second, que Dédi lui échappa. Lorsqu'elle descendit du train dans la gare de Paddington, son parti était pris. Il lui fallait une explication définitive avec Madame de Lautrec. Elle l'aurait, mais immédiate et à fond, après quoi elle saurait si, oui ou non, elle avait vraiment à craindre qu'Aliette ne lui prît son amant. C'est avec cette brutalité de termes et d'idées qu'elle se résumait à elle-même cette situation. Les jolies pécheresses, comme elle, ne croient jamais entièrement à l'irréprochable vertu des autres. Elle se méfie toujours vaguement des Hermines, des Lys, des Anges, des Madones, des Sphinx. Elle voit volontiers dans ces mots des synonymes délicats pour cet autre, hypocrisie. Pensant à Madame de Lautrec, elle se posait maintenant cette question toute crue. « Et si elle l'aime aussi? Et si elle voulait me le disputer, me le garder ?» Et le fond de scepticisme acquis dans ses propres expériences la faisait se répondre « pourquoi pas ? Cette explication qu'elle souhaitait et qu'elle espérait immédiate, à cause du voisinage de leurs appartements d'hôtel, elle ne parvint à la voir que le mardi dans l'après-midi, plus de 24 heures après le retour d'Aliette. Celle-ci n'avait pu prendre sur elle de revoir plus tôt sa perfide amie. Quand Emmeline entra dans le petit salon du premier étage, elle-même habitait le second, où se tenait celle qu'elle n'appelait plus que sa rivale, elle s'était montée intérieurement au diapason d'une lutte difficile. Elle se préparait à un de ces entretiens qui ne sont qu'un commentaire, en phrases plus ou moins déguisées, du dilemme « la paix ou la guerre ». Elle s'attendait d'abord à une scène d'indignation et de haute vertu. Aussi fut-elle très déconcertée de voir, à demi étendue sur la chaise longue, une femme, émue jusqu'à la souffrance, le teint pâli, les yeux lassés, mais qui s'efforçait de lui sourire et de l'accueillir comme si elle ne savait rien. Qu'elle sût tout, Emmeline le lisait dans ses yeux, dans cet effort de se sourire, aussi distinctement que si ses lèvres décolorées de fièvre lui eussent lancé les reproches qu'elle attendait. Il y a, dans certaines âmes très hautes et très pures, et Aliette en était une, des fiertés que les âmes communes ne prévoient pas, et malgré ses élégances, ses roueries, ses grâces d'attitude, son roman caché, ses sincérités même de passion, Emmeline, elle, était une âme d'essence commune. Elle comprit que Madame de Lautrec ne voulait pas lui parler de ce qu'elle avait surpris, et par un détour singulier de son cœur, cette réserve lui fut plus odieuse, plus intolérable que le pire affront. Peut-être jugea-t-elle que ce silence l'humilierait trop devant Dédie. Peut-être avait-elle besoin de mesurer elle-même quelle place le jeune homme occupait dans cette sensibilité blessée. Peut-être simplement cédait-elle à cet appétit des scènes dangereuses et poignantes que les chercheuses d'émotions ne laissent pas échapper si vite. Toujours est-il que, brusquement, après les deux ou trois premières phrases banales qu'elle devait naturellement échanger, Emmeline regarda Madame de Lautrec en face et lui demanda « Tu m'aimes donc bien peu ?»« Moi ?» dit Aliette dont les paupières battirent. Elle comprenait que l'autre allait lui imposer cette explication qu'elle avait tant espéré éviter. « Oui, toi !» reprit Emmeline, « puisque tu peux garder sur le cœur ce que tu y gardes. Crois-tu que je n'ai pas compris que depuis dimanche tu ne veux plus me voir, que ta maladie est jouée, et la raison, veux-tu que je te la dise ? Le veux-tu ? Si tu la sais, » dit Madame de Lautrec d'une voix étouffée, après une seconde d'horrible silence. Elle était incapable de mentir, et quoique cette brutalité d'attaque lui fît très mal, elle répéta « Si tu la sais, tu dois comprendre que je t'aime beaucoup, au contraire, et que je t'en donne la plus sûre preuve en te suppliant de te taire. Je peux vouloir ignorer certaines choses. Les connaissant, je ne pourrais pas les accepter. » « Et moi, je ne veux pas me taire !» interrompit Emmeline, âprement cette fois, avec cette violente fierté de la passion qui est, dans certains moments, le dernier honneur d'une femme. « Je ne peux pas accepter d'être traitée ainsi par une amie telle que toi. »« C'est vrai, » continua-t-elle avec une sauvage ardeur, « j'ai un amant. Tu nous as soupçonnés, tu nous as épiés. Laisse-moi parler !» insista-t-elle, comme Aliette faisait un geste de dénégation. « En tout cas, tu nous as surpris. Tu as mon secret. Tu me connais tout entière maintenant, avec ce que les préjugés du monde appelleraient ma faute, avec ce que j'appelle, moi, mon grand bonheur et mon orgueil. Si tu ne peux m'accepter ainsi, dis-le-moi, mais franchement, tu le dois à notre amitié. » « Ne parle pas de notre amitié !» répondit Aliette, que les paroles prononcées par l'autre avaient atteintes en plein cœur. « Le reste, je n'ai pas à le juger. » Mais cela, oui. Et malgré elle, la flamme secrète du sentiment combattu passait dans ses mots, dans son accent, dans ses gestes. Oui, reprit-elle douloureusement, c'est le point le plus malade. J'étais ton amie, j'avais en toi une confiance si entière, si tendre, si dévouée. Et qu'en as-tu fait de cette confiance ? Crois-tu que j'ai oublié tout ce que tu m'as dit et dont je comprends maintenant l'horrible duplicité ? À quel rôle l'as-tu employé, cette amitié ? Quelle comédie avez-vous joué tous les deux autour de moi, qui continuerait si le hasard ne m'avait pas éclairé ? Ah, c'est affreux ! C'est affreux ! Comme elle parlait, des larmes avaient commencé de monter à ses yeux qu'elle ne put contenir et qui roulèrent sur ses joues. Sa plainte avait été si déchirante qu'instinctivement, Emmeline, par un geste caressant, prit son mouchoir pour essuyer ses larmes en lui disant « Ne pleure pas, je t'en supplie, ne pleure pas !» Madame de Lautrec, qui était assise, se leva brusquement avec un sursaut d'aversion physique sur lequel son amie ne pouvait plus se tromper. Le parfum dont le souple carré de Baptiste était imprégné, c'était la délicate composition dont se servait toujours Emmeline. Ce voluptueux et très léger mélange d'orchidées et de chypre semblait l'exhalaison sensuelle de cette fleur vivante d'amour et de jeunesse qu'était la jolie adultère. Qu'il avait dû se mêler intimement, ce troublant et délicieux arôme, aux caresses échangées avec Dédie. Cette idée avait saisi Aliette sans qu'elle s'en rendît compte, et la maîtresse de Bertrand était trop profondément femme pour s'y méprendre. « Je te fais horreur, » dit-elle. Puis, après une seconde d'hésitation, marchant vers son amie, les yeux dans les yeux, passionnément, curieusement, cruellement, « Mais avoue-le donc que tu l'aimes aussi !» Elle s'arrêta, la pâleur d'Aliette était devenue livide. Emmeline la vit avec épouvante, qui mettait les mains sur son cœur, comme si une insupportable douleur lui déchirait le sein, puis qui s'appuyait à une table pour ne pas tomber. Ce ne fut qu'une faiblesse d'une minute, et Madame de Lautrec s'en était assez ressaisie pour dire « Tais-toi et va-t'en. Je t'en suppliais tout à l'heure, je te l'ordonne maintenant, va-t'en. Mais non, je t'en supplie encore, si tu as jamais été mon ami, va-t'en. Une autre fois, nous reparlerons. Je serai plus calme. Je ferai ce qu'il faut pour que personne ne soupçonne jamais ce qui s'est passé entre nous. En ce moment, cette scène me fait trop mal. » Puis, éclatant malgré tout dans un cri terrible, « Ah, malheureuse! Mais va-t'en donc, enfin! Va-t'en! Ne vois-tu pas que tu me tues ?» Et le geste de ses fines mains convulsées et crispées de nouveau contre son sein exprimait une telle douleur. Elle était si visiblement à bout de ses forces, il émanait d'elle une si impérieuse supplication de n'être blessée qui implore un peu de pitié et que l'on ne touche pas à sa plaie saignante. Comme malgré elle, Emmeline obéit. Elle venait de voir leur œuvre, à Bertrand et à elle, et pour la première fois d'en avoir peur.